exploitants de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield qui signent la plus forte hausse, plus 4%. Apparemment, les boursiers ont été soulagés que les centres commerciaux ne fassent pas partie des endroits qui, à partir de demain, vont être fermés à Paris et en proche banlieue pour lutter contre le coronavirus. C'était Marjorie Ancelot d'Investir.fr.
Merci Marjorie Ancelot. Donc, les marchés financiers sont tous orientés à la hausse en ce début de semaine, car je vous le disais dans le journal, les nouvelles de Donald Trump sont meilleures. Une décision de la Maison Blanche doit intervenir avant la fin de cette journée. C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté.
Radio G. 101.5 FM.
En ce moment et jusqu'au 12 octobre, c'est la fête de la science en Pays de la Loire. Un événement familial, ouvert à tous et gratuit, pour découvrir les sciences de façon ludique et originale. Les 10 et 11 octobre, rendez-vous à la Bibliothèque universitaire de Belle-Beille pour le Village des sciences d'Angers. Plusieurs espaces d'animation, de démonstration et d'exposition vous attendent. Vous pourrez tester, échanger, expérimenter et questionner les scientifiques venus à votre rencontre pendant ces deux jours. Programme complet de l'événement sur www.fetedelascience-paysdelaloire.fr. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à l'écoute de L'Oreille Curieuse, la quotidienne des actualités culturelles et locales sur Radio G. Aujourd'hui, vous découvrirez un nouveau rendez-vous de cette saison avec Cacahuètes et compagnie, une chronique dédiée à la nutrition qui sera proposée par José une fois par mois, un lundi par mois. Et je vous donne rendez-vous pour découvrir les oléagineux. Thématique à nouveau mystérieuse. On verra tout ça plus en détail en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, nous allons parler de nouveaux venus dans les médias locaux avec La Topette, un journal que vous trouvez depuis le mois dernier dans vos kiosques et qui se veut populaire et indiscipliné. On va voir ça ensemble en détail, on va parcourir le premier numéro. Derrière le micro, c'est Anne-Lie, comme chaque soir à peu près, et je vous livre la citation que j'ai choisie pour vous aujourd'hui. Écrire sans mensonge est déjà un acte révolutionnaire. C'est Dorothy Allison qui le dit. Elle est autrice états-unienne et née en 1949. Je vous laisse faire vos recherches de votre côté pour découvrir plus en détail sa vie et son œuvre. On débute cette émission, comme chaque soir, avec un titre. Celui-ci m'a été conseillé par Émile, que je remercie. Et on écoute Airwaves de Pachanim, qui est un jeune musicien qui nous vient de Berlin. Enfin, j'espère qu'on va l'entendre, parce que pour l'instant, vous n'entendez que ma voix. Je suis un peu embêtée. Je vous remets mon générique pour réfléchir, ça vous va. Je fais un petit moment de radio comme ça. Eh bien, je ne sais pas comment nous écouterons la musique ce soir, puisque visiblement ma source musicale ne fonctionne pas, alors je ne m'obstinerai pas. Et on va débuter cette émission avec notre premier invité, en espérant qu'une solution miraculaire... Ça se dit miraculaire ? Non, ça se dit pas. Une solution technique se profile prochainement. Alors, on parle de La Topette, un journal trimestriel basé dans le Maine-et-Loire, dont le premier numéro est sorti en septembre. Et il est disponible en kiosque, je le disais... On l'annonce populaire et indisciplinée et on va le parcourir avec Julien Collinet. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes journaliste et membre du... Comment dit-on
De la rédaction.
De la rédaction, merci. Et cofondateur du journal. La Topette, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est né ce projet ? Là, le projet, le journal, on peut le découvrir, c'est tout récent, c'est tout neuf. On a le premier numéro dans nos mains. Mais il y a forcément eu pas mal de temps de préparation, de rédaction. Comment s'est née la Topette ?
Alors effectivement, la Topette, c'est un journal qui est né le mois dernier dans le Maine-et-Loire. On est sorti tout début septembre dans les kiosques du département. Et en fait, il est né à l'initiative de trois journalistes professionnels, notamment. Il faut savoir quand même que tout le monde est bénévole dans ce journal, mais j'insiste sur le fait qu'on est tous journalistes professionnels, c'est-à-dire qu'on a une formation de journaliste, qu'on a fait ce métier depuis de nombreuses années. Et j'insiste là-dessus parce que toutes les informations qu'on va trouver sont des infos fiables et vérifiées, sourcées. C'est vraiment quelque chose de très sérieux.
Ça peut être un petit journal, une petite structure, mais c'est avant tout un journal et une éthique journalistique aussi.
Exactement, avec toute la rigueur et la déontologie qui va avec. Et c'est né de l'initiative de ces journalistes qui ne retrouvaient pas forcément dans la presse forcément ce qu'ils voulaient faire. Donc ils ont voulu créer ce journal, je m'inclus dedans, on a voulu créer ce journal. Notamment en s'attachant à parler du département, de là où on vivait, à savoir le 49, parce qu'on estime que justement ce territoire, c'est souvent un bon exemple pour parler d'autres choses. Et c'est aussi, dans la presse nationale notamment, les régions sont quelque peu oubliées du traitement médiatique de la presse parisienne. Et les gens pourtant sont demandeurs de ce type d'information, donc c'est pour ça qu'on voulait s'ancrer dans un journal local.
Ouais, c'était en fait peut-être pour imaginer le journal que vous trouviez pas ou les informations que vous trouviez pas ailleurs, en tout cas certainement dans les journaux nationaux.
C'est vrai qu'on a la chance quand même sur Angers en tout cas d'avoir deux quotidiens nationaux, mais c'est des journaux qui paraissent tous les jours, donc c'est un peu difficile pour eux de faire de l'enquête, de faire des articles sur le temps long. Et nous on voulait prendre un peu ce contre-pied en proposant de l'investigation, en proposant des papiers qui sont un peu long format, assez long format aussi, un peu pour faire un pas de côté par rapport à l'actualité et par rapport à toutes les infos que l'on peut vivre tous les jours, essayer de prendre du recul et apporter de l'analyse à tout ça.
Ouais, là, vous nous parlez d'investigation, d'enquête, de choses plutôt long cours. Comment vous voyez ça et comment vous le traduisez ?
L'investigation, justement, c'est quelque chose qui demande du temps. C'est aussi une volonté d'agir comme un contre-pouvoir, ce que, à mon avis, devrait faire toute presse digne de ce nom, c'est-à-dire un peu essayer de déconstruire le discours politique, le discours de la communication, en tout cas, de chercher à creuser derrière tout ce qui est parole officielle, essayer un peu de creuser pour voir les coulisses et voir comment ça impacte les gens au jour le jour.
Et l'arrivée d'un nouveau titre dans un paysage aussi, parmi les autres journaux, même la presse, la radio, la télé, tout ce qu'on veut, ça bouscule aussi le paysage médiatique local. Est-ce que ça, c'était une volonté de votre côté ?
C'est un peu une volonté. C'est vrai que sur Angers, c'est quelque chose qui manque. Il n'y a pas de magazine, à proprement parler, papier, qui peut faire ce genre de cadre que l'on veut proposer. J'espère que ça va bousculer les choses. En tout cas, qu'on va peut-être proposer une manière différente de travailler, que ça va inspirer nos confrères aussi. Pourquoi pas à eux aussi essayer de faire plus d'enquêtes. Après, je vous cache pas que la presse, en tout cas écrite, est mal positionnée économiquement en ce moment, donc c'est pas forcément facile à faire. Mais voilà, nous, c'est un défi qu'on essaie de relever.
Ouais, et justement, on entend souvent parler de la crise de la presse locale, que c'est compliqué. Et vous êtes dit, on fait notre journal, on le sort quand même, quoi.
Complètement. C'est pour ça qu'on le fait de façon bénévole. On s'est formé en association parce qu'on veut être indépendant à 100%, c'est-à-dire libre de toute influence financière. Il n'y a pas d'actionnaire dans la Topette. Mm-hmm. Il n'y a aussi pas de publicité parce que la publicité peut être une pression sur le contenu éditorial d'un journal. Et le format associatif, et oui, bénévole, donc du coup il y a peut-être aussi un côté un peu militant parce qu'on défend notre métier, on veut le faire d'une façon intègre et je pense qu'en étant bénévole justement on arrive à écarter la question économique et qui peut nous permettre de nous libérer et faire un peu plus ce qu'on a envie de faire.
Ouais, c'est toujours trouver un équilibre, différents leviers, trouver la liberté de ce côté-là, choisir ses contraintes. Enfin, j'imagine que c'est plein de questions que vous vous êtes posées. La Topette, vous le sous-titrez local, donc ça on l'a compris et c'est évident, mais aussi populaire et indiscipliné. Qu'est-ce que vous mettez dans ce mot-là, populaire ?
Populaire parce qu'on veut un journal qui s'adresse aux gens. Et ce qu'on constate, notamment avec la presse parisienne, on en parlait, tout à l'heure, c'est qu'elle s'adresse surtout, son cœur de lectorat, c'est les grandes métropoles, c'est les gens qui ont un certain niveau de revenus, les CSP+, entre guillemets. Et nous, on voulait un peu aussi encore, c'est relever un défi, bah, essayer de parler à tout le monde, essayer de parler de ce que vivent les gens jour le jour. Donc c'est vraiment se concentrer sur ce que vivent la plupart des habitants et pas justement à relayer cette parole officielle comme je parlais tout à l'heure.
Et là, on réentend cette volonté d'indépendance dont on parlait tout à l'heure, avec le choix de faire une association, de reposer beaucoup sur l'engagement bénévole. Concrètement, comment est-ce que ça tient aussi financièrement la Topette ? Parce que c'est à la fois une marque d'indépendance, de ne pas dépendre d'actionnaires, de ne pas dépendre de la publicité, et en même temps, il faut qu'il y ait des revenus pour imprimer le journal, pour aussi des choses très matérielles comme ça.
Justement, l'indépendance tient à la bonne volonté de tous les bénévoles qui participent. J'ai parlé de trois journalistes, mais il ne faut surtout pas oublier les autres. Il y a des illustrateurs locaux qui ont participé à ce journal, notamment qui ont fait du super boulot. La couverture est très colorée, on est super contents. Les gens accrochent beaucoup. Il y a aussi une graphiste qui est elle aussi bénévole, puis plein de petites mains qui nous aident pour la communication, la distribution, tout ce qu'il y a d'administratif. Et en fait, quand on a écarté ce problème-là, il reste plus que l'impression à payer. C'est quelque chose qui est très abordable. Et on était vraiment surpris par le succès du numéro 1, à tel point qu'on a dû réimprimer le numéro parce que tous les exemplaires étaient partis au bout de 3 semaines. Ouais. Et donc, les frais d'impression qui sont la première charge du journal ont été remboursés en quelques jours.
Ouais, donc là, vous pouvez arriver à une boucle circulaire, vertueuse de l'impression qui est le coût principal et financé par les ventes.
C'est ça.
Ouais. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non.
La question que je me suis posée aussi, c'est qu'on peut être indépendant, mais pour autant, la question de la neutralité, même quand on est journaliste, elle n'existe pas vraiment. Enfin, on a tous une position, on est tous situés quelque part. Est-ce que vous manifestez cette position ou comment ça prend forme dans le journal ?
Justement, la neutralité, l'objectivité, je crois que c'est un mot qu'il faudrait arrêter de dire qu'il peut exister, arrêter de l'enseigner dans les écoles de journalistes, parce que évidemment, ça n'existe pas, on parle tous d'un point de vue, on vient tous de quelque part, on a tous un parcours de vie qui fait qu'on va penser certaines choses. Après, justement, c'est aussi dans notre déontologie journalistique, c'est de s'attacher aux faits. C'est pas un journal d'opinion, vous trouverez pas de chronique pour l'instant d'éditoriaux. On veut faire de l'enquête, donc on se base sur des faits, c'est essayer de respecter la parole des deux parties. À chaque fois, quand on met quelqu'un en cause, lui donner l'occasion aussi de pouvoir répondre. C'est ça, on peut tendre un peu vers l'objectivité, mais effectivement, l'objectivité totale n'existe pas. Aussi, on veut jouer un peu, être un peu un poil à gratter. Mais ça va être plus être sur le choix de nos sujets que sur un journal d'opinion, par exemple.
Ouais, mais on sent aussi effectivement l'envie de gratter les choses, d'avoir un regard critique ou caustique. Dans le premier numéro, il y a en effet des sujets avec des angles ou des approches qu'on trouve pas forcément par ailleurs, et c'est intéressant. Est-ce que cette volonté de critique, c'est vraiment ce qui vient sous-tendre le choix de chacun des articles, ou alors ça s'est fait comme ça pour ces sujets-là ?
Les sujets sont un peu faits au feeling à chaque fois, mais c'est vrai qu'on tient à faire un journal de critique sociale, entre guillemets. Je prends un exemple qui a beaucoup plu aux lecteurs, c'est celui sur les communes nouvelles, parce qu'il faut savoir que dans le Maine-et-Loire, il y a la moitié des villages qui ont disparu en quelques années, en 6 ans, et il y a un profond ressenti dans la population par rapport à ça. Les gens ont l'impression d'être dépossédés de quelque chose parce qu'ils ont vu leur commune disparaître, et surtout ils ont l'impression qu'on l'a fait dans leur dos. Alors c'est vrai, on en a beaucoup parlé de ces communes nouvelles, mais on n'a pas expliqué derrière ce que ça impliquait, pourquoi on le faisait, et il y avait un vrai besoin chez les citoyens d'en apprendre plus là-dessus. Justement, on a tenté d'expliquer les intérêts financiers qu'il y avait derrière, le pourquoi du comment, et c'est plus via ce type d'enquête qu'on essaye d'être un peu caustique, entre guillemets.
Ouais, ou de regarder peut-être vraiment différemment, enfin de l'autre côté du sujet, qu'est-ce qui se passe. Je donne quelques-uns des exemples des enquêtes et des sujets que vous avez choisis pour ce premier numéro. Donc on parle de ces communes nouvelles, il y a aussi tout ce qui va être autour de l'idée de Smart City, la ville intelligente avec Angers et le projet de la municipalité. Vous pouvez évoquer le budget participatif aussi, ou alors les lycées en zone rurale et comment ils peuvent être loin de certains élèves, ou encore la question du transport des enfants handicapés, du transport scolaire et de tout ce que ça peut générer. Enfin bref, il y a plein de, voilà, quelques-uns des articles. Je me demandais aussi, l'ancrage, il est vraiment local pour la Topette, donc c'est uniquement des choses qui ont un lien avec le Maine-et-Loire. Est-ce que vous avez aussi envie d'aborder des thématiques nationales, voire internationales, par ce prisme local?
Bah justement, je pense que le local est un très bon moyen d'intéresser les gens et de leur faire réfléchir sur des choses au niveau national, voire même au niveau mondial. Je prends un exemple d'un des articles qui est dans le journal, qui est sur le portrait d'un couple d'agriculteurs, d'éleveurs laitiers, qui a malheureusement fait faillite. Alors c'est une histoire triste et banale à la fois, parce que il y a des dizaines de fermes qui tombent en faillite chaque mois en France. Mais donc du coup, c'est des éleveurs près de Brissac, donc on raconte une histoire à travers ça, et ça permet d'accrocher les gens, parce que c'est quelque chose qui se passe à côté de chez eux. Mais derrière ça, on essaie d'expliquer en fait ce qui se passe jamais en fait quand on explique des problèmes agricoles, c'est pourquoi on en est arrivé là. Et derrière ça, il y a des décisions politiques qui se sont faites notamment au niveau européen avec la réforme de la PAC, et ça permet de réfléchir cet exemple là d'un sujet vraiment hyper local à des thématiques de mondialisation et de réforme de l'agriculture.
Ouais, et de montrer concrètement le lien entre des grandes décisions et la vie de mes voisins ou de moi-même.
Et tout à fait, parce que les décisions qui sont prises par le haut, c'est les gens qui habitent ici qui les subissent au jour le jour.
Ouais. Et on voit aussi dans ce premier numéro, par rapport à l'ouverture sur autre chose que le 49, vous avez invité par exemple le collectif Pièces et Main-d'œuvre aussi à apporter leur regard dans cette enquête sur la ville intelligente et connectée. Je ne sais pas trop comment l'appeler, cette chose-là. Est-ce que quand vous débutez un sujet, vous savez déjà quelle opinion vous avez, enfin, comment ça vous fait changer de regard, le fait d'enquêter et ce travail d'investigation sur ces thématiques?
Là, on est vraiment sur la question du travail journalistique que je pense chaque journaliste doit faire quand il commence une enquête, c'est-à-dire forcément on a des a priori comme on le disait tout à l'heure, mais après on va essayer de rencontrer des intervenants de différents bords et qui eux vont souvent nous faire évoluer sur la question. Par exemple, il y a des intervenants avec lesquels on va peut-être passer 2 heures au téléphone, 2 heures en rendez-vous, on va garder qu'une ou deux phrases dans l'article, mais tous leurs discours qu'ils ont tenus vont nous faire évoluer sur la question et réfléchir à d'autres choses. Alors là, je prends l'exemple de la Smart City. Justement, on n'y connaissait pas grand-chose parce qu'on ne comprenait pas trop ce qu'il y avait derrière. Pour revenir sur le sujet, c'est ce qui fait la une du numéro, c'est qu'à Angers, la municipalité va proposer un gros projet d'ampleur pour faire ce qu'on appelle la ville intelligente, c'est-à-dire essayer de gouverner la ville, ou en tout cas de mieux la gérer grâce à nouvelles technologies.
Avec des capteurs, avec de l'intelligence artificielle,
c'est ça, des algorithmes,
de data, des ondes, enfin bref, plein de choses nouvelles.
Et ça, typiquement, on ne savait pas du tout ce que ça impliquait, mais c'est en faisant cette enquête qu'on l'a découvert. Et voilà, il y a tout un effort de communication, parce qu'il y a des gros enjeux financiers derrière, donc tout un effort de communication politique. Mais on se rend compte qu'il y a aussi, ça pose plein d'interrogations. Et c'est vrai que là, pour le coup, on est allé chercher ce collectif Pièces et Main-d'œuvre, qui est un collectif qui réfléchit à ces questions-là depuis plus de 20 ans du côté de Grenoble. Et parce que c'est un des rares acteurs, en fait, qui a un point de vue critique sur les nouvelles technologies. En fait, les nouvelles technologie aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on remet peu, sûrement pas assez en question. Et justement, ces gens-là ont fait un vrai travail et ça nous paraissait très intéressant d'avoir leur avis et leur réflexion sur le sujet.
Ouais, des personnes déjà un peu équipées pour réfléchir à ça. Avec la Topette aussi, vous proposez à votre lectorat ou même à qui veut bien de proposer des idées de sujets, des pistes d'enquête. Est-ce que c'est un journal qui se veut participatif?
Complètement, parce que déjà on n'est pas nombreux, comme je vous disais, on est 3 journalistes, donc c'est un peu dur de couvrir tout le département. Et puis souvent quand on est journaliste, on a le risque aussi d'être un peu enfermé dans une bulle. Des sujets qui nous intéressent peuvent pas forcément toucher tout le monde. Et je pense que les lecteurs, eux, peuvent avoir un point de vue différent, apporter des choses qu'ils ont vues, qu'ils vivent, et ça peut rapporter encore un peu plus d'humain dans le journal, et on reçoit d'ailleurs beaucoup de propositions de sujets depuis un mois.
Et justement, comment vous choisissez ensuite dans lesquels vous allez aller, lesquels vous allez creuser, vous allez aborder?
En gros, quand on fait, par exemple, là, il y a une douzaine de sujets, disons, sur le journal, en fait, il y a beaucoup plus de sujets sur lesquels on creuse, on essaie d'investiguer. En fait, on se rend compte que ça donne pas grand-chose ou c'est pas si intéressant qu'on le pensait. Donc
il y a des pistes que vous abandonnez aussi?
Bien sûr, évidemment, il y a des choses. Là, on est en plein de travail sur le numéro 2, il y a plein d'idées possibles et on sait qu'on va en abandonner certaines, que d'autres vont arriver plus tard, donc c'est un peu selon ce qu'on trouve.
Ouais. Et on peut vous proposer tout type de sujets, d'idées, c'est vraiment ouvert à tout?
Tout à fait, on est ouvert à tout, à partir... Sauf la limite qu'on s'est donnée, notre terrain de jeu, c'est le Maine-et-Loire, donc on se limite à ce terrain-là.
Et c'est déjà pas mal.
Il y a plein de choses à dire.
Ouais. Et alors, l'ours, c'est un peu le générique d'un journal, indique qu'il fabrique la topette, toutes les personnes qui sont impliquées dedans, mais les articles ne sont pas forcément signés. Pourquoi vous avez fait ce choix-là?
C'était une volonté, parce qu'on pense que c'est un travail d'équipe, et même s'il y a... comme je disais, que trois journalistes qui écrivent, en fait, tout le monde réfléchit un peu à ce qu'on peut mettre dans ce journal. Les illustrateurs aussi ont fortement d'importance. Ils sont beaucoup impliqués dans les sujets, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas fait une commande. Ils ont essayé de s'imprégner du sujet quand ils avaient le temps de le lire, parce que des fois, on n'avait pas complètement fini les enquêtes, mais en tout cas, sinon, on les briefait bien. Il y a eu un vrai travail de réflexion et de communication entre nous pour qu'ils puissent élaborer ça. Mmh. Et après, s'il n'y a pas de signature, c'était aussi une volonté, parce qu'on pense que les articles et les positions qui sont dans le journal reflètent l'avis de la rédaction tout entière. Et voilà, je... Pourquoi aussi le journaliste doit toujours être mis en avant derrière une signature? On n'estimait pas trop que c'était utile pour ce journal-là.
Ouais. Alors, on va aussi arriver sur l'objet. Donc, on est vraiment sur un journal de 16 pages où vous faites le choix du papier, qui est un choix, on le disait un petit peu tout à l'heure, qui peut être à contre-courant parce qu'il y a peu de nouveaux journaux qui sortent. Pourquoi c'était important pour vous de créer un objet qu'on allait pouvoir retrouver chaque trimestre dans son kiosque à journaux?
Déjà, je pense qu'on est tous un peu des amoureux du papier dans le journal, donc ça a joué, c'est quand même... pas la même chose de tenir un journal entre ses mains que de lire un article sur internet. Et comme on veut faire un journal de réflexion aussi, de débat, je pense que c'est plus facile de s'imprégner d'un article, de s'y plonger quand on a un objet physique entre les mains que derrière un ordinateur où on est, moi le premier, plus adepte et plus tenté de zapper entre différents articles, entre différents médias. Donc voilà, il y avait cette volonté-là. Et aussi, c'est un peu à contre-courant justement du tout numérique. On parlait de la Smart City tout à l'heure, mais il y a une espèce d'injonction au tout numérique. On veut un peu résister à ça parce que on pense que journal, c'est un vecteur de lien social. Pour aller acheter son journal, il faut descendre en bas de chez soi, aller chez son commerçant.
L'horreur.
Surtout en ce moment, c'est difficile pour eux, mais je pense que c'est un lien social juste d'aller chez son commerçant. Pourquoi pas discuter un peu avec lui et voilà.
Et repartir avec l'objet. Et puis c'est aussi agréable de le feuilleter, de l'avoir entre les mains. C'est aussi un journal qui est agréable à feuilleter. Cette forme, elle compte aussi tout ce qui est mise en scène. On a parlé du travail aussi des illustrateurs, des illustratrices. Ça, c'était dès le début du projet quelque chose qui vous tenait à cœur?
C'était dès le début du projet. On voulait faire un bel objet. Donc il y a Julie, notre graphiste, qui a fait un super boulot là-dessus. Parce que on voulait aussi parler aux jeunes et faire quelque chose de coloré. Parce qu'on dit que les jeunes ne lisent plus la presse, mais pour l'instant, les retours qu'on a prouvent que c'est pas forcément vrai. Et c'était important, en fait, de faire quelque chose de beau, parce que ça amène aussi un peu de crédibilité. On voulait pas paraître que ou comme un journal militant, mais comme quelque chose de sérieux. Et voilà, donc on a fait un beau papier aussi, parce qu'on a envie que les gens gardent le journal, pourquoi pas, et une collection des numéros de la topette, parce que c'est des articles aussi qui sont intemporels, donc qui pourront être lus dans 2-3 ans.
Ouais.
Avec tout autant d'intérêt, je pense.
Puis sur le format trimestriel, on a aussi le temps de découvrir tous les articles, normalement, quand même. on peut trouver la topette en kiosque, dans les journaux, donc c'est pas mal distribué localement, dans plein d'endroits, tout simple. Sinon, il y a les points de vente aussi sur votre site internet. Vous avez un site alors qui ne reprend pas des articles en ligne aussi. On parlait un petit peu de cette volonté d'avoir un objet papier. Ça peut compléter parfois, on peut avoir des réponses plus détaillées sur le site. Vous le voyez comme un objet complémentaire?
Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on a tenu à ne pas publier les articles sur le site, parce que justement, on était attaché au papier. Alors pour l'instant, oui, c'est une vitrine où on va retrouver les 120 points de vente dans le Maine-et-Loire. Je précise qu'ils sont autant à la ville qu'à la campagne. On peut trouver à peu près dans toutes les communes du département. Et aussi, on peut s'abonner. Mais pourquoi pas, à l'avenir, proposer des petits bonus, des compléments d'articles, des infos qui arriveraient après la parution. Pourquoi pas des podcasts, des sonores. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais peut-être un jour.
Étape par étape. Et donc là, après ce premier numéro, vous nous disiez, vous avez été surpris, vous avez dû le réimprimer, ce qui était imprimé à 2000 exemplaires et ils ont tous été achetés, donc c'est une belle nouvelle. Quels sont les retours concrètement que vous avez pu avoir des lecteurs et des lectrices?
Ben, ça a suscité énormément d'intérêt. On reçoit, au début, on recevait des dizaines de messages par jour, de mails. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, mais on en reçoit quand même tous les jours. Et ça, c'est incroyable parce que quand on achète un journal, que le lecteur fasse la démarche ensuite de contacter le journal pour dire ce qu'il en a pensé, c'est vraiment super. On est très contents. Surtout que ça crée du débat parce que les gens nous apportent leur avis sur les sujets dont on a traité dans le journal. Et vraiment, ce qui ressort, c'est qu'il y avait un besoin. Ce que beaucoup de lecteurs nous disent, c'est que ça manquait d'un journal qui enquête et qui a un peu un regard critique et qui dépasse justement la communication qu'on a l'habitude de voir.
Ouais, de retranscrire les communiqués de presse presque tels quels, etc. Le prochain numéro, il va sortir début 2021.
Début décembre.
Début
décembre.
C'est
tous les 3 mois, donc c'est vendu 3 euros. Premier numéro en septembre, donc le numéro 2 sera disponible dès décembre.
Et vous savez déjà ce qu'on va pouvoir y lire ou c'est tellement en cours de changement qu'on ne peut pas trop savoir?
On a plein d'idées, mais il n'y a rien encore de fixé. Et puis il y a certains sujets aussi qui sont un peu délicats, donc qu'on garde un peu sous le coude. Okay. Avant de communiquer dessus.
Top secret, on ne dira rien. Merci beaucoup, Julien Collinet. Donc, je rappelle que vous êtes venu nous présenter La Topette, le journal qui est disponible en kiosque, encore maintenant, on le trouve pendant 3 mois. C'est 3 euros et on peut s'abonner sur votre site latopette.fr ou vous suivre sur les réseaux sociaux. On n'a rien oublié.
On n'a rien oublié.
Merci beaucoup. Je suis ravie parce que j'ai retrouvé moi le bouton pour écouter de la musique dans cette émission, ce qui est assez rassurant. Et donc on va écouter le titre que je vous ai annoncé tout à l'heure en début d'émission, c'est Airwaves de Pachamine.
Hinterhof im Schatten, Packster packen im Mailand-Trikot. Frost und tief und hinten lang, ja nimm das, trägt man einfach so. Vater fließt ab 20s bei, im Boxershorts aus Türkei. Schlechte Zeiten gehen vorbei, iPhone 11 auf Dickfischei. Schattenboxen, Hagelberger, Ecke, Möcker, Straße nachts. Baharia kontrollieren, fragen sich, was Pascha macht. Project Baby, Kodak Black, Wasserjacke, hellblau an. Sommer 50 CCM, mach Wheelies über mir. Sitz mit Zahnstocher auf Bank, Berlin bei CU Connect. Ganze Novak Djokovic, Lacoste Season im Gepäck. Bella Boys mit Spanisch laufen auf Langeweile durch Schutt. Leben schnell, machen Geld, iPhone Display ist kaputt. Airwaves in mein Jeans und Trikot von Sisu. Original Berliner Boys, nein, wir sind nicht wie du. Wesh, wesh, ich OTMs und Jack Suits für die Crew. Und lauf auf Pradas durch 6-1 mit Zucker, Wasser, Tattoo. Waves in mein Jeans und Trikot von Sisu. Original Berliner Boys, nein, wir sind nicht wie du. Wesh, wesh, ich hol DMs und check Suits für die Crew. Und lauf auf Pradas durch 6-1 mit Zucker, Wasser, Tattoo. Dunkelblaue Prada Cups, Kalenji, Kapuze tief. Du denkst, du wirst überfallen, wenn du einen von uns siehst. Balloch halten mit Shabab und Leute grüßen nebenbei. Große Louis-Taschen tragen und Piqué-Polos in weiß. Hallo, ich bin's, am Handy red ich wie bei Sims. Kim Corolla und ich war, Miring nahm den ganzen Tag. Bachos wissen, kenn die Songs, 61 Berlin Bronx. Drücke 20, Sascha D, gerade 19 Mbappé. Spanisch guckt aus Lacos, Bini, Baby, nee. Hinten raus, sitz am Fenster, Altbauwohnung, Miring Damm, Hinterhaus. Jugendstil, Fassaden, hohe Decken, Treppen, Häuser schön. Schlaf 10 Stunden Minimum, daran könnte ich mich gewöhnen. Airwaves in mein Jeans und Trikot von Sisu. Original Berliner Boys, nein, wir sind nicht wie du. Wesh, wesh, ich hol DMs und check Suits für die Crew. Und lauf auf Pradas durch 6-1 mit Zucker, Wasser, Tattoo. Airwaves in mein Jeans und Trikot von Sisu. Original Berliner Boys, nein, wir sind nicht wie du. Wesh, wesh, ich hol DMs und check Suits für die Crew. Und lauf auf Pradas durch 6-1 mit Zucker, Wasser, Tattoo. I'm not afraid of the dark.
vous êtes toujours à l'écoute de Radio G et de l'Oreille Curieuse. Et maintenant, on va retrouver un nouveau rendez-vous du lundi. C'est la chronique Cacahuètes et compagnie qui est proposée par José.
Cacahuètes et compagnie.
Et je précise, José, parce que je ne sais pas si tu vas le dire ou pas, mais qu'on va parler dans cette chronique de nutrition.
C'est
ça. Une fois par mois.
Exactement. Donc une fois par mois, on va faire un petit point sur la nutrition. Donc j'ai choisi des sujets. On en parlera peut-être à la fin, si tu
veux.
Donc bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Amélie.
On se lance, on est heureux.
Ok. Et du coup, bonjour aux auditeurs aussi de Radio G, du 101.5 FM au radio-g.fr. Aujourd'hui, donc, du coup, dans Cacahuètes et compagnie, nous allons parler des oléagineux. Bon, avant que je vous interroge, Amélie, ou que je t'interroge, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on le dit. Je te tutoie, je te vous
vois. On se tutoie.
Allez,
on se tutoie, vous savez.
Donc, du coup, j'ai réalisé un micro-trottoir dans les rues d'Angers pour avoir un peu l'aperçu des connaissances de monsieur, madame, tout le monde. Alors, bonjour.
Bonjour.
Si je vous dis oléagineux, ça vous fait penser à quoi?
Aux amandes, aux noisettes. Moi, c'est ce que j'utilise le plus, les oléagineux en général.
Bah, l'huile.
Quoi d'autre?
Bah, toutes les céréales, tout ça, les voilà.
Je sais pas.
Non.
Les graines.
Pas du tout, non.
Les légumes.
Légumes, oui. Il y a des légumes. Alors.
Légumes comme le poireau, le. Enfin, tout ce qui est légumes avec des fibres.
Oui, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûre, moi.
Alors moi ça me fait penser à un légume, mais ça me fait penser à un légume fibreux. Alors je sais pas du tout, je m'y connais pas dans le sujet, mais ça me fait penser à quelque chose comme ça. Toi? Parce que toi tu dois t'y connaître mieux que moi quand même.
Ben ça me dit quelque chose, mais...
Et oléagineux.
J'ai pas écouté en cours alors... ça bloque.
Des graines? Si je vous dis des graines?
Moi en fait oléagineux ça me ferait vraiment penser à... Ouais c'est ça, un truc avec des fibres, avec... C'est le mot fibre qui me vient en tête moi.
Tu sais que s'il dit graines et toi fibre, c'est pas pareil.
Oui, mais d'accord, ça change rien.
Oh, j'adore.
Je peux me
vas-y, on
je peux me plonger
débat.
Dans mon erreur, hein, t'inquiète pas.
Ouais,
non, mais je donne ma langue.
Mince. Ma langue à gribouille.
Oui, du coup, j'adore ce dernier couple. Enfin, j'adore. Enfin, on a passé un moment sympa, donc voilà. Donc, alors, Annelie, ça vous éclaire un peu ou pas, d'ailleurs, justement, ce que c'est que les oléagineux?
Les oléagineux, moi, j'avoue que quand on me dit ça, au départ, je vois des formes étranges, mais dire précisément ce que c'est, vraiment, c'est pas facile. Je suis pas la bonne personne pour répondre.
Bon, alors. Qu'est-ce que c'est? Donc, ils sont également appelés fruits à coque. Vous voyez, de temps en temps, c'est écrit sur les étiquettes de certains produits. Donc, ils sont divisés en deux catégories bien distinctes. Donc, on a d'un côté les fruits oléagineux et les graines. Donc, les fruits avec, vous savez, les noix, les noix de cajou, brésil, pécan. J'en ai ramené quelques-unes si vous voulez goûter tout à l'heure. Mm-hmm. Pas pendant la chronique, hein, parce que ça s'entend à la radio. Hein. Noisettes, amandes, pistaches. Il y a aussi les olives. Donc, ils sont souvent utilisés en coupe fin dans la journée. Ils peuvent également être broyés, mixés et enfin devenir une purée tartinée sur du pain à la place du beurre le matin. Vous savez, le fameux beurre de cacahuète.
Ah, c'est bon.
Ah oui, et il y a aussi essayé celui de cajou, c'est quand même pas trop mal non plus. On peut aussi en faire des huiles, donc vous connaissez forcément l'huile d'olive, l'huile de noisette, voilà. Donc, il y en a d'autres, hein, vous savez, je fais vite parce qu'on n'a pas
on
beaucoup
a peu de temps.
Donc les graines oléagineuses, elles, du coup, donc vous voyez les graines de lin, de chia ou de kia, ça dépend de la prononciation, tournesol, sésame, courge, donc sont souvent utilisées pour faire des compléments de vinaigrette, pour agrémenter les salades composées. Vous savez, les gâteaux healthy, de temps en temps, certaines recettes, ou alors les muesli du petit déjeuner. Elles aussi, elles peuvent être utilisées pour faire des huiles végétales. Vous savez, l'huile de tournesol, quand même.
Oui, c'est la base.
Donc, de quoi sont-ils composés, ces graines et ces fruits oléagineux? Donc, d'un point de vue nutritionnel, d'accord? Donc de manière générale, donc les graines et les fruits, donc leur teneur en matière grasse est comprise entre 30 et 50 %. et leur teneur en protéines, donc protéines végétales forcément, sont à peu près de 20%. Donc ce sont des données pour 100 grammes de produits. Donc en gros, si on prend 100 amandes, donc il y a entre 30 et 50% de matière grasse et 20% de protéines. Donc ça, c'est des données que j'ai prises sur le site SQL et sur Aprifel. Elle reste alors, vous avez une idée, Anneli, ce qui reste, donc il y a 30, 50, 20%, le reste, ça fait quoi à peu près?
J'avoue que j'écoutais pas du tout, en fait, je regardais l'horloge pour savoir quand est-ce que j'allais arrêter l'émission. Non, en fait, je sais pas, j'avoue.
Ok, bah d'accord, ça fait plaisir.
Quel soutien.
Donc le reste, c'est environ on dirait 10 grammes de fibres, 5 grammes d'eau et 10 grammes de glucides. Donc, et on a aussi des minéraux, vitamines essentielles pour l'organisme, d'accord? Donc justement, je voudrais revenir sur ces matières grasses. Donc, ils sont composés d'acides gras insaturés, d'accord ? Donc, ce sont plutôt ceux qu'on appelle souvent oméga 3, oméga 6, donc principalement chez les amandes, les noix, ou alors on a les oméga 3, par exemple, chez les cacahuètes ou la pistache. Donc, pour faire vite, les acides gras ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, mais ils se trouvent que dans l'alimentation. Donc, plus un aliment en contient, et mieux c'est. Je veux revenir aussi sur leurs protéines. Donc c'est à peu près en quantité égale ou presque à celle des viandes, mais sous forme végétale bien sûr. Donc qui dit plutôt végétal dit beaucoup moins d'acides gras saturés.
Et ça peut être intéressant pour certains régimes aussi végétaliens.
Oui.
Je me tais.
Non, mais complètement. Non, mais vous avez complètement raison. Donc quand je reviens aux protéines, donc il y a à peu près environ 20% en moyenne. Donc ça c'est plutôt pour les oléagineux et pour les viandes, poissons, œufs, on a entre 18 et 22% en moyenne. Donc vous voyez, on n'est quand même pas trop loin.
Ouais. Okay.
Alors attention, c'est pour 100 grammes de produits.
Oui, effectivement.
Oui,
okay.
C'est pas la même chose. Les minéraux et vitamines sont en quantité importante, comme le potassium qui est indispensable dans l'entérocyte. Entérocyte,
je ne sais pas ce que c'est.
Tout. Donc c'est la cellule intestinale, c'est celle qui permet d'absorber les nutriments. Voilà. Donc le potassium, il est important pour l'échange avec le sodium, justement au moment de l'absorption des nutriments.
Il faut prendre des notes pour cette première chronique.
Okay. Hein. J'espère qu'il y a un podcast, comme ça les gens pourront faire des recherches.
Il y a un podcast.
Donc il y a aussi du fer, du cuivre, du magnésium, et en quantité importante, et aussi des vitamines du groupe B et E. Donc ça c'est important. Donc qui dit riche en matière grasse, dit produit énergétique. D'accord. Donc la teneur pour 100 grammes, en moyenne, 400 kilocalories. 400 kilocalories, c'est à peu près 300 grammes de pâte blanche.
Ah oui.
Vous voyez quand même, 300 grammes, c'est une belle assiette. Hein.
Mm-hmm. Oui,
donc
c'est une grosse assiette.
Hein,
ouais.
D'accord.
Ouais. Donc en fait, on a plus d'énergie.
Oui, voilà, c'est ça. Mais attention, vu que c'est riche en matière grasse, il faut prendre plutôt des petites quantités, justement. On va en parler après, avec les recommandations de l'ANSES. Donc là, justement, je voulais voir un peu les bienfaits. Donc, comme je viens de dire à l'instant, ce sont des produits énergétiques, à condition, pas trop en abuser. Il semblerait aussi qu'ils soient bénéfiques lors d'hypercholestérolémie.
On a du cholestérol ? C'est ça que ça veut dire ?
C'est ça, c'est un peu le taux de cholestérol dans le sang qui est élevé, parce que hypercholestérol, voilà. Donc,
ça, c'est bon.
Ils contiennent justement des phytostérols, donc ce sont des substances qui sont proches de la structure du cholestérol. Et cette substance, elle permet de réguler le taux de LDL cholestérol. LDL cholestérol,
c'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol.
Exactement, c'est ça.
J'ai lu la suite.
Alors, on parle aussi que c'est important lors de cancer, mais attention, on ne le guérit pas en mangeant des oléagineux, on est bien d'accord.
Okay. Oui, les amandes, c'est bon, mais il n'y a pas que ça.
Voilà, c'est ça. Donc, on va un peu parler des méfaits. Bon, c'est pas non plus super méga grave, mais quand même. Enfin, faut en
des
parler
limites,
un petit peu.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, comme c'est riche en matière grasse, quand c'est pris en quantité, il risque de se stocker dans les adipocytes. Ok, adipocytes.
Les cellules graisseuses.
Exactement. Les cellules graisseuses. Donc, elles se stockent souvent chez l'homme au niveau de la ceinture abdominale, au niveau du dos aussi, chez les femmes. Au niveau
des cuisses,
au niveau du fessier aussi, voilà. Bon, ailleurs, mais c'est principalement par ici. Donc ça, c'est plutôt facile à gérer. Quand on en mange, enfin, on sait que quand on mange trop, à un moment, faut baisser la quantité. Donc on sait comment gérer cette situation-là. Mais c'est aussi des produits allergisants. Donc au départ, ils peuvent causer des formes de rougeur cutanée, des maux de tête et des gonflements de lèvres. Oui, ça c'est quand on sépare. Parce que quand on sait, on n'en mange pas.
Mais, ou pas trop.
Voilà, ouais. Enfin, quand on est allergique, on évite.
Oui, oui, bien sûr. Ah, oui.
Donc, dans les cas les plus graves, justement, ils peuvent créer un choc anaphylactique.
Ça, c'est très grave.
Là, voilà, par contre, là, c'est une réaction allergique immédiate, grave, généralisée, qui affecte l'organisme dans son ensemble. Là, par contre, c'est urgent, c'est vite. Hein. Faut pas hésiter. De toute façon, je vous dis, on va en arriver là, vous le savez, et puis vous n'en mangez pas.
Ouais, mais quand on n'est pas allergique, même si on en mange beaucoup, beaucoup, on n'a pas ces réactions-là.
Non, on n'a pas ça. Non,
d'accord.
Non. Okay. Donc c'est aussi la raison pour laquelle c'est noté traces de fruits à coque sur certaines étiquettes de certains produits. Donc du coup, on en parlait tout à l'heure au début. Donc justement, il y a des recommandations de l'ANSES. L'ANSES... C'est un peu l'organisme sanitaire qui traite tous les risques et les problèmes sanitaires, aussi bien au travail qu'au niveau de l'alimentation. C'est eux qui ont mis en place, par exemple, les 5 fruits et légumes, manger, bouger. Donc là, donc tout ça, ça s'appelle un programme national nutrition santé. Donc là, on est au 4, OK, qui a vu le jour le 22 janvier 2019. Et là, justement, ils préconisent d'augmenter la consommation d'oléagineux, avec une petite poignée par jour. Donc, une petite poignée d'amandes, de noisettes, enfin voilà.
De noix, de pistaches.
Voilà, c'est ça. Bon, alors, attention quand même, les recommandations, ça change assez souvent. Et puis, les mains ne sont pas les mêmes mains chez tout le monde, d'accord ?
Mais peut-être que ça peut faire une proportion qui convient forcément à notre corps. Je m'emporte.
Non, mais en fait, oui, en général, on dit qu'on puisse fermer la main. Mais sinon, voilà. Parce qu'en général, quand on commence à mettre le nez dans le paquet, on a du mal à arrêter. Hein. Bon, ça dépend quoi.
Donc une petite poignée.
Voilà, une petite poignée. Ok, donc du coup, les conseils que je peux donner moi lors de consultation. Donc je préconise de consommer des fruits oléagineux à mes patients pour agrémenter leur salade composée, donc avec des petites noix, des amandes, vous savez, concassées, vous mélangez ça dans la salade, c'est super sympa, ça apporte du croquant, ou alors utiliser des huiles à base de fruits pour augmenter leur rapport en oméga-3. Donc l'idéal serait d'avoir un taux de consommation d'oméga-3 ou oméga-6 de 1 pour 5. Donc ça veut dire que, en fait, c'est un équilibre à avoir, justement, si on a trop d'oméga-6, trop d'acides gras saturés, enfin tout ça. Et du coup, plus on a d'oméga-3, plus ça se rééquilibre au taux qu'on a besoin, 1 pour 5. Je ne vais pas dans les détails, mais si vous voulez, on pourra en reparler.
On reviendra sur les oméga-3. Ouais.
Des heures et des heures.
Ok.
Je propose aussi des graines oléagineuses du type amande, car leur rapport qualité nutritionnelle et prix est plutôt abordable par rapport à d'autres noix du Brésil ou de pécan. Enfin, noix du Brésil, c'est quand même 10 euros le kilo. Enfin, ça commence un petit peu à envoyer. Donc, au-delà de l'aspect financier, je propose aux sportifs, lors de leur collation d'après-match, vous savez, pendant la fenêtre métabolique. Donc, c'est le rechargement du stock énergétique juste après l'activité physique. Ça dure entre 30 et 45 minutes, c'est juste après.
Juste après, on vient d'arrêter sa séance de sport, voilà, et là c'est le moment de manger...
Ouais, quelques petites graines, alors pareil, toujours pas le paquet, hein, mais voilà, la petite poignée, ça permet de caler, d'attendre le repas plus tard, ou le repas du midi, ça dépend à quelle heure vous faites votre séance.
Okay.
Pareil, si vous faites ça en soirée, après le repas, plus tard, voilà, ça vous permet de vous caler, et puis... impeccable.
Une petite poignée, ok.
Une petite poignée. Et pour les bien portants, donc monsieur, madame, tout le monde, c'est un rôle de coupe-faim, à condition de les consommer suivant la recommandation de l'ANSES qu'on a dit plus haut. C'est aussi pareil pour les enfants. On peut aussi leur proposer d'emmener quelques graines à l'école, donc à la place des gâteaux sucrés, mais attention, hein, pas les chichis. Hein. Vous savez, les amandes enrobées de chocolat, de sucre coloré, tout ça. Donc pareil, c'est aussi un accompagnement fait avec les parents. Donc si les parents sont adeptes, je pense que ça coule de source au niveau des enfants. Donc je vous ai apporté quelques petites graines à grenouiller. Vous me direz si vous les reconnaissez.
Oui, on va les décrire rapidement en concluant cette émission qui est en retard. Il y a de l'amande.
Yes, il y a des petites amandes effilées, bravo.
Il y a quelque chose de très mignon mais que je n'identifie pas, qui est tout petit.
Ouais, des graines de tournesol.
Ah bon, des graines de tournesol, mais elles ressemblent à la partie noire autour.
Ah bah non, oui, il y a
j'en vois jamais des comme ça, voilà. Moi.
Alors on est d'accord, elles sont non sucrées, non salées et non sucrées non plus.
D'accord.
Et les autres ?
Celles-ci là ?
Ouais.
Ce sont des noix.
Des noix de
noix.
de pécan.
Des noix,
c'est
noix
de pécan.
Les noix toutes simples, c'est noix de pécan qu'il faut dire.
Ah non, les noix toutes simples, c'est des noix, et là, c'est des noix de pécan.
D'accord. Voilà. En tout cas, c'est très bon.
Voilà, très bien.
C'est tout pour cette première chronique.
C'est tout pour cette première chronique. Merci d'avoir écouté.
Merci José, c'est déjà beaucoup d'informations. Je précise que toutes ces informations sont vérifiées et fiables, car vous êtes vous-même nutricien et nutritionniste et diététicien.
Diététicien, nutritionniste.
Excusez-moi, j'ai perdu toute ma capacité d'articulation et j'invente des mots ce soir. Bref, j'espère qu'on aura compris l'idée. Merci beaucoup José et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine Cacahuète et compagnie.
Au mois prochain.
Merci encore. Et je retrouve le générique de cette fin d'émission. Car oui, on a fini vraiment en retard, 4 minutes 30, mais c'est pas grave, c'était un plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous cherchez le podcast de l'émission, il est en ligne sur le site de Radio G, à la page de l'Oreille Curieuse. La prochaine chronique de Cacahuète et compagnie, j'ai noté la date, c'est le 19 octobre. Non, c'est pas le 19 octobre, c'est encore 2 semaines après. Je vous ai dit une grosse bêtise. Nous, on se retrouve demain à 18h10 si vous avez toléré toutes ces coquilles dans cette émission. Et on sera avec le Shabada. D'ici là, vous pouvez nous écrire, que ce soit encourageant ou décourageant. Je recevrai tous vos mails avec beaucoup de joie. Vous pouvez passer par le mail prog.radio-g@gmail.com ou les réseaux sociaux de Radio G. À 19h dans... Allez, 4 minutes et 45 secondes, vous retrouvez la case de Seb, votre magazine d'actualité BD, manga et comics. Très bonne soirée et à demain. Je vous laisse avec la prog de Radio G.
101.5 FM.
Nous sommes le lundi 21 septembre.